Il est 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Les vendanges sont rentrées, l'ensoleillement sera favorable à la qualité du millésime. Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire, à la sécheresse et à la hausse des droits de douane, c'est traditionnellement un moment de fête.
Eh oui, alors on l'appelle la gerbaude dans le Bordelais, du nom de la gerbe de fleurs que l'on plaçait sur la dernière charretée de la moisson, la paulée en Bourgogne, la revoule dans le Beaujolais, le cochon en Champagne, parce qu'on faisait boire un coq lâché ivre au milieu des convives. La fin des vendanges était toujours partout synonyme d'agape bien arrosée. La revue Le Rouge et le Blanc s'intéresse aux sylvanaires, cépages typiquement alsaciens, victimes de tous les débordements productifs, dont trop souvent le caractère délicat et subtil s'est dilué avec les hectolitres. Sonia Lopez-Calleja s'est attardée dans le Zotzenberg, un terroir qui lui a valu son accession au rang de grand cru en 2005. Le sylvanaire est né au Moyen-Âge d'un croisement entre le Savagnin et l'Österreichisch Weiß dans l'est de l'Autriche. Plutôt fragile au gelé, il est très sensible à l'oïdium et à l'esca, moins au mildiou et à la pourriture grise. Mais champignons et bactéries ne sont pas tous nocifs, bien au contraire, et pourraient même constituer une solution pour une agriculture moins dépendante des engrais et des produits phytosanitaires. C'est ce que révèle le passionnant entretien avec Marc-André Sellos, biologiste, botaniste et mycologue au Muséum national d'Histoire Naturelle. Le champignon, par exemple, grâce à ses filaments microscopiques formant le mycélium accroché aux racines, étend considérablement le volume de sol exploré, ce qui coûte moins cher à la plante que de fabriquer de la racine, et lui permet d'augmenter l'efficacité d'exploration du sol et d'aller chercher des éléments peu mobiles comme certains minéraux, mais également l'eau. Et c'est donnant-donnant, puisque le champignon se nourrit aussi de cette symbiose. Et il protège non seulement la racine, mais également la partie aérienne de la plante en émettant des antibiotiques pour lutter contre les pathogènes. Enfin, sa présence entraîne une réponse de la plante qui accumule des défenses, notamment en fabriquant des tanins. Or, les tanins assurent la couleur, l'arôme, le goût et le toucher par leur faculté de s'agripper aux protéines, notamment celles des muqueuses, puis de s'en libérer petit à petit pour aller activer vos récepteurs olfactifs, participant ainsi à la longueur en bouche. Ils s'attachent aussi à la salive, la raréfiant momentanément. Sans ce lubrifiant, vous sentez la rugosité de vos muqueuses. C'est ce qui fait l'astringence, une sensation mécanique, un toucher. Le vin est né autour de la Méditerranée. Les archéologues confirment ce moment de l'épisode biblique du déluge qui fait s'échouer l'arche de Noé sur la cime du mont Ararat dans l'ancienne Arménie. À la suite de quoi, je cite la Genèse, Noé, le cultivateur, commença à planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda sous sa tente. Un euphémisme pour dire qu'il s'est adonné à la luxure, en l'occurrence à l'inceste, comme le suggère le Lévitique. Pour les anciens Égyptiens, l'alcool était associé au sexe et copuler signifiait picoler, nous rappelle Marc Forsyth dans une brève histoire de l'ivresse publiée aux éditions du Sonneur. L'auteur, spécialiste d'étymologie et aussi en l'occurrence d'éthylisme, fait un plaisant tour d'horizon des pratiques sociales de l'ivresse depuis les temps les plus reculés et sur tous les continents. Les Grecs avaient ainsi une tradition bien établie, celle du symposion. On commençait par souper, des plats simples, avalés en vitesse et en silence. La nourriture ne comptait pas vraiment, elle ne servait qu'à éponger le vin. Puis on choisissait le symposiarque qui présidait la soirée arrosée, le plus souvent l'hôte des lieux. Après les libations commençait la beuverie et là, vous n'aviez plus le choix. Tout le monde était tenu de terminer son bol et d'accepter d'être resservi. Marc Forsyth évoque Platon qui pensait que si l'on peut se fier à un type qui est ivre, on peut se fier à lui en toutes circonstances. À la fin de son plus fameux dialogue, le banquet, les convives gisent ici et là, ivres morts, à l'exception de Socrate. Socrate, l'homme qui boit mais qui va droit, serait le modèle des philosophes qui rêvent à la fois de s'enivrer d'absolu et de maîtriser l'ivresse, commente Jean-Luc Nancy dans son beau livre sur le sujet. Ayant bu comme un trou, il part, Socrate, au matin, sans chanceler pour arpenter en solitaire les bords du gouffre qu'il a ouvert devant tous, Connais-toi toi-même cette promesse de vertige, présage d'une ivresse qui précéderait toutes les autres, car elle ouvre en chacun un ailleurs d'inquiétante étrangeté, la possibilité d'une chute libre ou, comme dit le philosophe, d'une rupture de digue par où ça peut couler.